Nous ouvrons donc la deuxième partie de ce colloque avec l'aventure parisienne des éditions Charlot. Il fallait aller à Paris parce que rien ne pouvait se faire hors de Paris, nous dit Edmond Charlot dans les entretiens avec Frédéric Jacques Temple. Jean-Yves Mollier donc, va nous parler de cette fulgurante aventure parisienne. Jean-Yves Mollier est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il a récemment publié « Éditions, presse et pouvoir en France au XXe siècle ». La mise au pas des écrivains, l'impossible Paris de l'abbé Bethléem au XXe siècle. Et vient de paraître également une autre histoire de l'édition française. Jean-Yves Mollier a également dirigé les trois éditions de Où va le livre à la dispute aux éditions La Dispute en 2000, 2002 et 2007. C'est à vous.
Merci de votre accueil, merci de votre invitation. Je vais essayer effectivement de présenter l'aventure parisienne Sion Charlot en essayant dès le départ de vous faire chasser une idée de votre esprit. Comme nous savons qu'il a échoué, on a l'impression que c'était inéluctable qu'il échoue. Il n'y a rien de plus faux que ce type de raisonnement ex post facto. Rien n'était inéluctable et Edmond Charlot avait bel et bien l'ambition de remplacer Gaston Gallimard à la Libération. Il n'était pas le seul. René Julliard, Robert Laffont, un certain nombre d'autres, Pierre Segers, Max-Paul Fouché, partageaient très largement cette volonté. En effet, l'édition française a été particulièrement ébranlée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Traditionnellement, elle est concentrée, l'édition française, est concentrée à Paris depuis le XVIIe ou au moins le XVIIIe siècle. Ça veut dire qu'en exagérant à peine, on peut considérer qu'il n'y a quasiment pas d'édition littéraire de qualité en dehors de Paris avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a bien sûr de l'édition scolaire, de l'édition religieuse, de l'édition administrative, militaire, dans d'autres villes que la France, mais au fond, on peut d'une certaine manière citer la fameuse phrase de l'ambassadeur nazi à Paris, Otto Abetz, il n'y a que trois forces qui comptent, la banque juive, le parti communiste et la NRF. Ce n'est pas une boutade aux yeux de l'ambassadeur nazi qui considère effectivement que les éditions Gallimard et avec elles la NRF sont une force spirituelle telle que le pouvoir nazi, le pouvoir d'occupation, ne peut pas ne pas compter. Or, la NRF, elle disparaît à la Libération, elle est interdite. Les éditions Gallimard payent le fait que Drieux-Larochelle a pris la tête de la NRF pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il faudra attendre 1953 pour que la nouvelle NRF reparaisse. Et il y a bien entendu dans le paysage éditorial bon nombre de revues qui ont également cette ambition de remplacer les revues d'avant-guerre. Je pense évidemment à Fontaine de Max-Paul Fouché, mais également aux Lettres françaises de Louis Aragon, au Temps moderne d'Emmanuel Mounier, qui ont paru avant la guerre, mais qui ont été interdits à partir de 1942 et qui reparaissent après-guerre, ou encore aux Cahiers du Rhône, qui ont quitté la Suisse pour s'installer à Paris. Voilà quelle est, en quelque sorte, l'ambiance au moment où Charlot va arriver à Paris. La guerre fait rage, pour reprendre l'expression de Gisèle Sapiro, dans le milieu des lettres, au moment où, sur le front, les armes se sont tues. Quelle est l'opinion d'ailleurs des nouveaux éditeurs par rapport aux anciens ? Je me contenterai d'une citation de Vercors, sans exception, sauf une. Tous les éditeurs s'étaient pliés au diktat de l'occupant, puisqu'ils n'avaient le choix qu'entre obéir ou disparaître. Toutes les maisons d'édition auraient donc dû être remplacées par de nouvelles, dirigées par des éditeurs depuis 4 ans réduits au chômage. Et comme tous avaient collaboré, c'était évidemment impraticable. Alors bien sûr, c'est un jugement extrêmement sévère, sans aucune nuance, et il ne correspond pas tout à fait à la réalité. Mais enfin, les listes auto, dont le syndicat des éditeurs, pendant 30 ans, a prétendu que c'était les Allemands qui l'avaient imposé aux éditeurs, je l'ai montré dans Édition, Presse et Pouvoir en France, documents d'archives à l'appui, en donnant le nom dans chaque maison d'édition de ceux qui ont épuré leur catalogue avant même que les Allemands ne le demandent. Les listes auto sont le produit d'une liste de censure allemande. Elle s'appelait la liste Bernhard. Elle avait été préparée, évidemment, par le Troisième Reich avant le 14 juin 1940. Et puis, l'ensemble des listes émanant de la maison Gallimard, de chez Fayard, de Talendier, d'Epuf et de la plupart des maisons d'édition. Une seule gérante de maison d'édition, à mon sens, avait conservé le sens de l'honneur d'un éditeur. Elle dit à ses collègues que nous ayons eu à cœur d'enlever des vitrines et d'enlever de nos catalogues les auteurs que les Allemands n'auraient pas supportés et à cause desquels ils auraient fermé nos maisons est une chose, mais donner ces listes aux Allemands, ça, c'est absolument indigne. C'était la gérante de la librairie Payot. Elle seule avait conservé une attitude à peu près digne. Deuxième élément de mon introduction, pendant la guerre, on l'a vu avec l'édition Charlot à Alger, un certain nombre de maisons d'édition sont nées. Je ne citerai que les deux plus grandes, les deux principales, mais il y en a d'autres. D'abord, les éditions de Minuit, avec un catalogue prestigieux. Elles ont été fondées par Pierre de Lescure et Vercors. Vercors est le plus connu, mais il ne faut jamais oublier le premier fondateur, Lescure. Et puis, deuxième maison d'édition, la Bibliothèque française, dirigée dans le sud de la France par Louis Aragon. Mais il y a eu d'autres structures. Faisons attention aux deux grandes maisons d'édition que j'ai citées. La maison René Julliard n'a pas été résistante. Et d'ailleurs, réglons-lui rapidement son sort. René Julliard va se dépêcher en 1944 de republier « Liberté » de Paul Éluard aux éditions de Monaco pour faire oublier qu'entre 40 et 43, il a édité la totalité des discours du maréchal Pétain, les discours du maréchal Pétain occupant l'essentiel de son catalogue. Donc, résistant si l'on veut, mais vous conviendrez avec moi, résistant du lendemain et certainement pas résistant de la veille. En fait, il n'a jamais résisté. Quant à Robert Laffont, il n'a pas été pétainiste, il n'a pas été non plus résistant. Il a lancé sa maison, il était très jeune, en 1941. Et avec beaucoup de sagesse à la Libération, il a recruté comme directeur de collection, d'un côté, le très gaulliste Guilin, Pierre Guilin de Bénouville, venant du maurrasisme, mais gaulliste incontestable pendant la guerre, et puis le communiste Louis Parot. Bien gardé à droite, bien gardé à gauche, il considérait comme ça qu'il pouvait arriver à Paris. Et comme il l'écrit d'ailleurs à un de ses amis, il va y avoir du grabuge à Paris. Voilà dans quel contexte Edmond Charlot s'installe à Paris. Ajoutons enfin, dernier point de cette introduction, qu'un certain nombre d'éditeurs vont payer cher leur collaboration. Bernard Grasset va être arrêté, puis libéré pour raison de santé, mais il sera condamné longtemps après la guerre, et surtout, sa maison d'édition sera condamnée en tant que maison d'édition pour avoir collaboré, et elle sera fermée. Ou plus exactement, il faudra la grâce présidentielle du président Auriol, grâce accordée aux éditions Grasset pour services rendus à la littérature, pour que la maison Grasset puisse survivre, mais sans Bernard Grasset à sa tête. Les éditions de Noël, elles ont perdu leur fondateur. Il a été assassiné en décembre 1945. La police conclura à un assassinat crapuleux, mais la crapule qui l'a assassiné a eu l'extrême élégance de laisser dans la poche du costume le très gros portefeuille, très bien rempli, puisque Robert de Noël se rendait ce soir-là au théâtre et avait probablement besoin d'utiliser l'argent qu'il possédait. On n'a jamais su qui, et on ne sait toujours pas, j'ai pu avoir accès au dossier de police, il y a eu une reprise de l'enquête en 1950, au moment où je parle, nous ne savons toujours pas qui véritablement a assassiné Robert de Noël. Donc Grasset éliminé, de Noël éliminé d'une certaine manière, il restait la maison Gallimard. Mais dans les archives du syndicat national des éditeurs, comme on l'appelait à l'époque, de l'édition aujourd'hui, on a des documents extrêmement précieux. En février et mars 1944, la famille Gallimard et sans doute Gaston sont tellement persuadés qu'ils vont avoir à rendre des comptes que les Gallimard font entrer à la tête du syndicat trois d'entre eux, le frère de Gaston, Raymond Gallimard, le fils de Gaston, Claude Gallimard, et le neveu, Michel Gallimard. Si cela ne s'appelle pas une garde rapprochée, alors je ne sais pas ce que signifie l'expression « garde rapprochée ». Vous voyez donc que lorsqu'Edmond Charlot débarque à Paris, toutes les conditions sont remplies, pour que les éditions EC ou Edmond Charlot soient, d'une certaine manière, la maison ayant vocation à remplacer Gallimard. Pourquoi la maison ayant vocation à remplacer Gallimard ? Eh bien, parce que c'est une maison d'édition, M. Basset l'a rappelé il y a quelques minutes, c'est une maison d'édition au catalogue, certes, encore mince, mais au catalogue déjà prestigieux. Et puis, j'ajouterai immédiatement un argument. Nous savons tous qu'Albert Camus va être édité par Gaston Gallimard. Mais il n'y avait rien d'inéluctable à ce que Camus fût édité par la maison Gallimard. La preuve, en 1941, il a écrit à Edmond Charlot pour lui proposer les manuscrits des trois œuvres à venir, dont L'étranger. Alors, admettons un instant que L'étranger n'ait pas été publié chez Gallimard. L'étranger aurait, avec le succès qui fut le sien, apporté à la maison d'édition Charlot une trésorerie qui lui a fait cruellement défaut en 1948 lorsque les orages financiers se sont présentés. Rien n'était inéluctable. Admettons même que L'étranger ait été publié chez Gallimard, mais que Camus, compte tenu des circonstances, ait dit à Gaston Gallimard en août 1944, fin août 44 ou début septembre 44, « Désormais, mon éditeur sera Edmond Charlot », Gaston Gallimard n'aurait pas pu faire autre chose qu'accepter cela. Malgré le contrat qui avait été signé, compte tenu des circonstances, tous les tribunaux auraient donné raison à l'auteur Albert Camus reprenant son contrat d'édition. Il suffit d'ailleurs que Camus plaide le fait que, pour le moins, les éditions Gallimard avaient été complaisantes avec l'ennemi pour que le contrat soit immédiatement déchiré et que, par conséquent, la maison Charlot soit en mesure de reprendre son auteur. Donc, vous le voyez bien, il n'y avait rien d'inéluctable. Une des questions qui se pose à l'historien, c'est de comprendre pourquoi. Alors même que la maison Gallimard subit quand même les foudres d'une partie des écrivains, subit en partie les foudres du Comité national des écrivains, même si de ce côté-là, le fait que Jean-Paul Lan ait été cofondateur des Lettres françaises protège la maison Gallimard. Mais enfin, dans ce contexte très précis de la libération, des luttes extrêmement dures, dans un contexte où Brasillach est fusillé et où d'autres écrivains, je pense à Rebatté, doivent rendre des comptes, on peut effectivement se demander, rétrospectivement, pourquoi trois résistants ou trois... Oui, on peut dire trois résistants, chacun de manière différente. Albert Camus, Louis Aragon et Jean-Paul Sartre ont accordé après-guerre l'exclusivité de leur œuvre à la maison Gallimard. Pourquoi, au fond, ces écrivains n'ont-ils pas participé à ce qu'ils avaient souhaité pendant la guerre, à savoir la régénération de l'édition française ? Quand on relit effectivement les Lettres françaises de 1944, on le voit bien, il est dit très clairement que tous les éditeurs devront rendre compte. Dès les premières semaines de 1945, le comité d'épuration de l'édition, installé à la mairie du 6e arrondissement, convoque la quasi-totalité des éditeurs, puisque presque tous sont installés dans le 6e arrondissement. Et les archives de ce comité d'épuration de l'édition montrent que le climat est tendu. La maison Hachette, par exemple, craint évidemment d'être nationalisée, au moins pour la partie des messageries. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a effectivement pratiquement nationalisé les messageries de la presse. Il se trouve que la nouvelle coopérative qui a remplacé les messageries Hachette entre septembre 1944 et le début de l'année 1947 fera faillite parce que, en sous-main, la maison Hachette va obtenir des prêts bancaires des banques d'affaires qui n'ont pas été nationalisées. Les banques de dépôt, elles ont été nationalisées. Société Générale et les autres, Crédit Lyonnais, elles ont été nationalisées. La librairie Hachette va obtenir des prêts des banques d'affaires et pendant 2 ans, elle va payer très cher tous les journaux de la Résistance qui acceptent de quitter la coopérative des messageries qui a remplacé les messageries de presse et de venir vers les messageries Hachette, l'expéditive. Au début de l'année 1947, le gouvernement constatant que la coopérative est en faillite, constatant que techniquement l'instrument messagerie Hachette est le seul qui tient vraiment la route, oblige les deux parties à se mettre autour d'une table et on débouche sur la création des nouvelles messageries de la presse parisienne, Presstalis aujourd'hui, qui a le monopole de la distribution de la presse en région parisienne et à l'époque pratiquement partout en France. Donc vous voyez bien quel est ce climat où effectivement un climat de règlement de compte, un climat où ceux qui se sont opposés au nazisme, ceux qui ont pris les armes, y compris les armes, disons le stylo, la plume, demandent des comptes aux autres. Donc on peut s'étonner que ces écrivains résistants et choisi non pas d'aller renforcer des maisons d'édition comme Pierre Segers, comme Max-Paul Fouché ou Edmond Charlot, et finalement aient donné leurs œuvres, je l'ai dit, à la maison Gallimard. Prenons simplement l'exemple de Louis Aragon. La Bibliothèque française va être la matrice des éditeurs français réunis, une des grandes maisons d'édition pour la littérature générale, du groupe du Parti communiste, du groupe des éditions sociales, devenu plus tard Messidor Éditions sociales. Or, Louis Aragon ne donne pas son œuvre poétique et romanesque à sa propre maison d'édition, la Bibliothèque française, devenue éditeur français réuni, mais le donne à Gallimard. Il était chez De Noël avant la guerre, il est passé chez Gallimard. Donc, on voit bien qu'il y a là un phénomène qu'il nous appartient d'expliquer, de comprendre d'abord et d'expliquer. On pourrait dire, de manière brutale et sans aucune nuance, finalement, hein, ils ont préféré aller vers la maison d'édition qui allait leur assurer les droits d'auteur les plus importants. Je ne crois pas que cet argument puisse être retenu. En revanche, ce qui est tout à fait certain, c'est que Sartre, comme Aragon, comme Camus, ont très vite compris, en tant qu'écrivains, que la maison Gallimard possédait le seul véritable capital culturel qui compta à la Libération. C'était vrai avant 1940, j'ai lu la phrase d'Otto Abest, c'est toujours vrai en 1945, parce que si on met à part le parcours, la trajectoire de la NRF, de la revue qu'il faut mettre à part, les éditions Gallimard ne sortent pas de la guerre compromises. Au fond, le fait que Jean Paulhan ait continué à travailler a permis à la maison d'édition, de faire attention et de ne pas trop publier. Bon, elle a publié Goethe dans la Pléiade, mais après tout, ce n'est pas un crime de publier Goethe, puisqu'il fallait publier des traductions allemandes. Bah, la maison Gallimard a préféré prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les lettres allemandes. Bon, il y a quelques, quand on regarde de très près, quelques œuvres qui, effectivement, sont des œuvres de complaisance par rapport au pouvoir, mais pour l'essentiel, le catalogue est intact. Et donc, évidemment, la maison Gallimard va essayer de faire le gros dos pendant quelques mois. Toutefois, j'ai cité ces deux nouvelles maisons d'édition pleines d'ambition que sont les éditions Julliard et les éditions Robert Laffont. Les éditions Julliard, elles ont le culot de s'installer rue de l'Université. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, si vous prenez la rue Sébastien-Botin, la rue de l'Université, elle est à angle droit. Aujourd'hui, la rue Sébastien-Botin s'appelle Gaston Gallimard. La maison Gallimard possédait un premier hôtel particulier rue Sébastien-Botin. Elle venait de racheter, avec les bénéfices de la guerre, elle venait de racheter l'immeuble de la rue de l'Université. Eh bien, en face, la maison Julliard, qui reprend les locaux de Robert Laffont, eh bien, se trouve vis-à-vis de la maison Gallimard. Vous comprenez bien que ce climat de revanche ou ce climat d'ambition de remplacer, de régénérer l'édition, elle passe aussi par la confrontation physique. Or, la maison Julliard va truster trois prix Goncourt en 46, 47, 48. On a l'impression, d'une certaine manière, qu'effectivement, exit Gallimard, que c'est terminé. Non, à partir de 49, Gallimard retrouve la suprématie dans les prix littéraires. Mais Julliard allume ses lampions pour énerver la maison Gallimard en célébrant, évidemment, avec faste, les prix Goncourt. Sur la maison Charlot, je ne m'étends pas énormément, le catalogue le dit bien mieux que moi, vous avez la liste exacte de toutes les productions. La maison Charlot est prestigieuse à cause de son passé résistant. Elle est prestigieuse par la qualité de ses catalogues en 45, 46, 47 et 48. Elle publie énormément. Elle publie beaucoup plus que les autres maisons d'édition. Quand on regarde avec attention les chiffres. Regardez, par exemple, pour l'année 1946, 68 nouveautés au catalogue des éditions Edmond Charlot. 25 chez Correa Bûcher-Chastel, un éditeur résistant. 28 titres nouveaux aux éditions du Seuil, un éditeur également prestigieux, puisqu'il y a Jean Cayrol et Albert Béguin, désormais dans la maison d'édition. Chez Calman Lévy, prestigieuse maison d'édition avant la guerre, 16 titres en 1946, enfin 35 chez Plomb. Vous le voyez, si on s'arrête un instant sur l'année 1946, la maison Charlot a publié 2 à 3 fois plus de titres que l'immense majorité de ses concurrents. Mais cette médaille a un revers. Elle a un revers, car le catalogue des éditions Charlot est maigre d'un point de vue quantitatif. Il n'est pas maigre d'un point de vue qualitatif, mais il n'y a que quelques dizaines de titres au catalogue. Or, on oublie trop souvent, quand on pense à cette période, un principe de base de l'édition. Ce ne sont pas les nouveautés qui permettent de gagner de l'argent, sauf exception avec un best-seller, c'est le fond qui nourrit une maison d'édition. C'est le fond en étant réédité chaque année. C'est l'addition de petits ruisseaux qui font les rivières et l'addition de petites rivières qui font évidemment les fleuves. Or, Edmond Charlot, à la différence de ses concurrents, ne peut pas, ou très peu, rééditer des titres qui lui permettraient effectivement de surmonter les difficultés. J'ajoute une deuxième raison mal éclaircie. Pourquoi les banques nationalisées n'ont-elles pas prêté de l'argent alors qu'il en a demandé à Edmond Charlot? Après tout, il était très bien en cours, au moins jusqu'au départ du pouvoir du général de Gaulle en janvier 1946. Et même après, avec les gouvernements de ce qu'on appelle le tripartisme, Parti communiste, Parti socialiste et MRP, même dans la période 46-47, il est encore assez bien en cours. Pourquoi donc n'est-il pas parvenu à obtenir du système bancaire nationalisé, j'y insiste, les prêts qui lui auraient été nécessaires pour tenir pendant 1 ou 2 ans? Je n'ai pas de réponse à cette question. Elle est complexe. Il faudrait faire des recherches très longues, mais c'est possible, dans les archives de la Société Générale, du Crédit Lyonnais. Elles sont très, très bien organisées. Donc une recherche systématique permettrait peut-être de trouver des lettres de demande de prêt. Il faudrait revoir également du côté des papiers privés qui sont en la possession de la famille d'Edmond Charlot, s'il n'y a pas des bribes, des morceaux, des traces qui permettraient d'éclaircir cette question. Pour le moment, on sait qu'il y a eu effectivement demande ou recherche de financement, mais qu'il ne l'a pas obtenu. Ce sont, au fond, ces éléments réunis qui permettent de comprendre qu'en 1948, effectivement, Edmond Charlot se trouve quasiment en état de faillite. Alors je sais bien, on a évoqué souvent également son éventuelle mauvaise gestion, le fait qu'il n'aurait pas été un véritable gestionnaire. Je n'y crois pas en tant qu'historien. On dit toujours ça après coup. Après tout, Gaston Gallimard était-il un excellent gestionnaire? Non. Mais il avait avec lui, c'est vrai, Raymond Gallimard, qui lui était un véritable financier. Mais surtout, la famille Gallimard était immensément riche. Par conséquent, eh bien, même s'il y avait des années difficiles, on avait un appui possible. Regardez aux éditions de Minuit. Vercors est en état de cessation de paiement en 1947. C'est Jérôme Lindon qui va le remplacer. Pourquoi ? Parce que Jérôme Lindon appartient à une famille fortunée, à une famille dans laquelle il y a des banquiers qui vont accepter de renflouer les éditions de Minuit qui, pendant 4 ou 5 ans, ne gagneront pas d'argent. Du côté de Robert Laffont, il y a également de l'argent. Du côté de Julliard, il y a de l'argent gagné de manière pour le moins ambiguë en éditant les discours et les textes du maréchal Pétain. Mais on voit bien que Charlot se retrouve effectivement extrêmement désavantagé. Je ne crois pas donc à l'erreur de gestion, pas plus que Balzac n'a fait faillite comme imprimeur en 1828. Balzac a fait faillite parce qu'on était en période de crise économique qui emportait des dizaines et des dizaines d'imprimeurs et d'éditeurs et de libraires. Par conséquent, il faut également se poser la question, entre 1946 et 1950, y a-t-il eu faillite de nombreuses maisons d'édition ? La réponse est clairement oui. Et notamment les jeunes maisons d'édition, qui sont les plus fragiles, lorsqu'elles ne disposent pas d'une trésorerie très importante, eh bien, elles sont extrêmement fragiles. Et je vais arriver vers ma conclusion pour ne pas dépasser le temps qui m'a été imparti. Je prendrai un exemple. Les éditions du Seuil, elles sont également extrêmement fragiles avant 1951. Mais en 1951, on dirait en termes de jeu qu'elles touchent le jackpot. Pourquoi ? Parce que 12 maisons d'édition parisiennes ont refusé la traduction d'un roman italien qui en français va s'intituler « Le petit monde » de Don Camillo. Il n'y a donc aucun génie de la part des éditeurs du Seuil d'avoir accepté une traduction dont personne ne voulait. Ça leur a permis de l'acheter pour 3 sous. Personne n'en voulant, ils n'avaient pas à l'acheter pour une grosse somme. Et comme lorsqu'on achète les droits d'une traduction, on a les droits ad vitam aeternam pour le pays dans lequel on a les droits, ça veut dire que grâce effectivement à ce jackpot extraordinaire, 800 000 exemplaires vendus, puis ensuite il y aura même des droits dérivés avec l'adaptation en France au cinéma avec, vous le savez, Fernandel dans le rôle de Don Camillo. Donc au fond, si on en reste à cet exemple, oublions ce renflouement de la trésorerie des éditions du Seuil par le petit monde de Don Camillo. Imaginons qu'un des 12 éditeurs qui ont refusé le petit monde de Don Camillo, je pense à Calman Levy ou à d'autres maisons, l'ait accepté. Les éditions du Seuil auraient peut-être disparu. Ou en tout cas, n'auraient pas eu la voilure qu'on leur connaît à partir de 1951. Je conclus donc que les leçons d'un échec, à mon avis, ne doivent pas mettre nécessairement en avant les piètres qualités de gestionnaire d'Edmond Charlot ou encore les qualités de piètre gestionnaire de son entourage, de son staff, de ses directeurs de collection, mais bien davantage la conjoncture et peut-être également le pouvoir politique qui, au fond, avait promis que la France ne serait plus la même après la guerre, mais on l'a vu dans bien des domaines, dans le domaine de la presse comme dans le domaine de l'édition. Le fait même que la librairie Hachette est retrouvée en avril 1947 avec la loi Bichet et retrouvée son navire amiral, les messageries représentaient 50% de son chiffre d'affaires avant la guerre et représentera encore plus après la guerre. En avril 1947, le fait même que la librairie Hachette n'ait pas eu à rendre des comptes et qu'elle ait pu retrouver l'ensemble de ce qui faisait sa force avant la guerre, prouve qu'au fond, un phénomène de résilience venait de se produire, de la même manière qu'un matériau que l'on tord retrouve, au fond, assez rapidement son état antérieur lorsque les conditions atmosphériques sont réunies. Eh bien, de la même manière, on peut dire qu'à partir du milieu de l'année 47, toutes les conditions sont réunies pour que les éditions Charlot disparaissent. Je m'explique. Le tripartisme s'interrompt en mai 47. Les communistes sont dans l'opposition. Le général de Gaulle fonde quelques semaines après son propre parti politique, le RPF. Il est donc également dans l'opposition. Ça veut dire qu'au moins la moitié de la résistance est exclue du jeu politique. Ça veut dire que la France est en train de retrouver ces vieux démons de l'avant-guerre et que, dans l'édition comme dans les autres domaines, on est revenu au point de départ. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Jean-Yves Mollier, pour ce panorama stratégique, économique et politique du monde de l'édition à la Libération, qui donne un éclairage nouveau sur cette période qui était relativement obscure de la mise en faillite de la maison d'édition. Alors, sans plus attendre, je vous propose de réserver les questions pour Jean-Yves Mollier à la fin de ce colloque, puisque nous allons accueillir à présent la table ronde. Pierre Vigne doit nous quitter incessamment sous peu.